Alors ce matin, on continue dans les actes. Voilà. Bon, j'ai oublié mon PowerPoint. Enfin, c'est pas vrai, j'ai pas de PowerPoint. Donc, acte 16. Je vais tomber la veste. Donc, acte 16. Je ne vais pas commenter tout le chapitre, on va partir à peu près sur le verset 16. Ce serait bien si on pouvait l'avoir, il y a des moments je m'en servirai, mais j'ai prévenu personne. Donc voilà, vous connaissez acte 16, c'est le passage où Paul et Silas vont passer, ils vont être interpellés, Paul va être interpellé par une vision, il y aura un Macédonien, donc un Grec, qui vient à notre secours. Donc c'est la première fois que l'évangile va arriver en Europe. Voilà. Donc c'est un passage important. Et après, ils vont être emprisonnés. C'est ce qu'on va voir. Voilà. Donc, première partie, arrivé à Philippe, Paul et Silas, quand ils arrivent à Philippe, ils rencontrent Lydie. Hein, c'est une dame qui... Apparemment, c'est une femme d'affaires, d'après le contexte, elle est très riche. Et les gens se réunissent, parce qu'il n'y a pas de synagogue, ils se réunissent au bord d'une rivière. C'est ça le principe. Ils vont prêcher l'évangile, il va y avoir des conversions, Lydie et sa maison seront sauvées, c'est ce qui est dit. Et donc, on voit que régulièrement, pendant un temps relativement long, Paul et Silas vont se rendre à ce lieu pour prêcher. Et donc, il y a des conversions. Donc, au verset 16, il est dit... Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Donc ça veut dire que Luc est là, entre parenthèses. Nous, il s'inclut dans l'histoire, puisque c'est lui qui a écrit les actes. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir. » Et il sortit à l'heure même. Alors, je ne sais pas vous, mais il faut toujours s'imaginer les choses. Vous ne trouvez pas bizarre ce passage, par exemple? Il n'y a pas les choses qui vous choquent? Pardon? Exactement. A priori, ce qu'elle dit, nous, quand on le lit comme ça, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Les serviteurs du Dieu Très-Haut, et il nous annonce la voie du salut. » Et l'apôtre Paul... Il est excédé, il n'en peut plus, il se retourne et il chasse l'esprit de Satan, en fait. Mais en fait, la vérité, ce n'est pas tout à fait ça. La vérité, c'est que pour les gens de Philippe, le Dieu très haut, c'est Zeus. Donc, parce que là, on est en Europe, il n'y a pas de culture juive, il n'y a pas de culture monothéiste. Donc pour eux, ça veut dire ça. Et ensuite, ce que ça veut dire aussi, c'est que le salut, pour eux, ça signifie la prospérité, la santé, le secours devant le danger. Donc, on n'est plus dans l'évangile. Donc, ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va réagir comme cela. Et puis, le terme python, a priori, ça voudrait dire qu'elle était ventriloque. Bon, ça, c'est un truc que j'ai lu, je ne sais rien, j'y étais pas. Hein? Donc, il va parler avec autorité, je t'ordonne, je t'enjoins de sortir de cette... Et tout de suite, l'esprit va sortir. Hein? Mais là, on peut dire, l'esprit sort. Mais les problèmes arrivent. Ces maîtres, qu'est-ce qui se passe? Elles rapportent de l'argent, hein, c'est aussi pragmatique que ça. Ils voient leur argent s'évanouir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre la panique dans la ville en disant que ces gens, ils mettent le trouble dans la ville, sont des juifs qui prennent des coutumes qu'on ne connaît pas, à nous qui sommes citoyens romains. Alors, pour calmer les esprits, qu'est-ce qu'ils font? Les autorités, ils embarquent Paul et Silas, ils vont les jeter en prison. Mais avant de les jeter en prison, qu'est-ce qu'ils font? Ils les battent, ils se font battre de verges. Pareil, quand on lit ça, on se dit, voilà, ils se font battre de verges. Non, ils se font battre de verges. Je sais pas, prenez un bâton, vous vous faites défoncer, quoi. C'est ça la réalité. Des fois, je trouve qu'on lit trop vite les choses. Donc, ils se font exploser. Roués de coups. Donc quand ils arrivent en prison, ça respirait pas la santé, hein, on est d'accord. Il devait être déjà bien, bien fatigué, quoi. Voilà. Alors, pourquoi Paul et Silas n'ont pas dit qu'ils étaient citoyens romains ? S'ils l'avaient dit, ils n'auraient jamais été en prison. Une énigme ou un sens pour la suite. Hein ? Donc, fer au pied, blessure sur le corps, un endroit sombre, froid. Hein ? Après les avoir roués de coups, ils les jetèrent en prison, enjoignant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Ayant reçu cette injonction, celui-ci les jeta dans le cachot central, donc même pas peut-être où il y a de la lumière, on imagine au milieu de la prison, et il leur mit des entraves de bois aux pieds. Donc le gars, il ne veut vraiment pas qu'il s'évade. Hein. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, mais au bois, c'est le même terme. Luc, il emploie ce terme 4-5 fois dans les Actes et dans l'Évangile, et c'est le terme de la croix en fait. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. C'est le même terme. Donc, voilà. Il y a là aussi un lien, certainement. Donc, voilà. Encore une histoire extraordinaire qui va se passer dans les Actes. Et les Actes, c'est juste pour nous servir d'exemple. Voilà. Donc, peut-être que certains ici seront un jour roués de coups. Il y en a peut-être à qui c'est arrivé, d'ailleurs. Et peut-être qu'ils se retrouveront en prison. Bon, bah évidemment, chacun dit, j'espère pas moi, c'est normal. Donc voilà, pareil, toujours imaginez la scène. Quand vous lisez, c'est bien de la visualiser. Donc prison, c'est le milieu de la nuit, ils sont gardés. Tout est réuni pour s'apitoyer sur soi. Hein. Voilà. Tout est réuni pour se taire. Mais eux, qu'est-ce qu'ils font ? Confiance en Jésus-Christ. Ils ont exprimé cette confiance, comment ? Par la louange. Voilà. Alors c'est marrant parce que moi je suis un des rares ici qui a été viré de la louange et je vais parler de la louange. Je ne suis pas rancunier. Enfin viré, j'exagère. Hein. Mais à peine, à peine. Bon, restons dans le message. Donc, chanter vers le milieu de la nuit, c'est ce qui est dit dans ce verset. Voilà, c'est intéressant. Parce que est-ce que c'est au milieu de la nuit que la louange a plus d'effet qu'en plein jour ? Dans la conception biblique, de manière symbolique, oui. Voilà. Parce que la nuit, c'est les ténèbres. Donc il y a un vrai sens là-dedans. C'est qu'un symbole, mais je pense que si c'est précisé. Et donc ils vont se lever et chanter dans la nuit. Ça donne encore plus à ce geste. Hein. Ils souffrent, mais Paul et Silas s'oublient et ils chantent. Ils louent le Seigneur. Hein. Qu'ils aient la force de prier, on pourrait le comprendre. Parce que mais chanter, se lever, chanter, louer Dieu, c'est quand même quelque chose de fort dans ce passage. La présence de Dieu transforme cette prison. Hein. Ça devient la porte du ciel. Hein. Le Seigneur a dit, vous êtes bienheureux quand on vous injuriera, on vous persécutera, qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Et le Seigneur vraiment nous encourage, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Bon. On a la foi, on croit ce que dit Jésus, mais des fois, ce n'est pas évident quand même. Alors, l'apôtre Paul, dans Philippiens, à un moment donné, il va exhorter à se réjouir toujours dans le Seigneur. Hein. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc, ça, là, ils ne font pas juste le dire, ils le vivent. Donc, c'est certainement parlant. Paul et Silas vont se lever pour chanter, pour louer le Seigneur, lorsque la situation était à son comble de l'horreur. Hein. Quand on lit ça, on se dit, moi je me dis, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place ? Qu'est-ce que j'aurais fait ? Ben, c'est tout le livre des Actes, en fin de compte. Il sert à ça, nous témoigner de situations que nous pourrions nous-mêmes être appelés à vivre. et que certains ont déjà vécu, peut-être. Et là, eh ben, on a un modèle, un exemple. Comment on va faire? Alors peut-être que moi, pas vous, mais moi, je serais peut-être couché sur ma couche, en train de pleurer, hein, voilà, en train de désespérer. Hein. Peut-être qu'il y aurait des rats là, qui passent, parce qu'il faut être clair, hein, ce n'est pas du 3 étoiles, hein, c'est une prison il y a 2000 ans. Déjà aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire, mais imaginez, ça devait grouiller. Hein, des rats, des bon, bref, je ne sais pas quoi. Puis on n'y voyait rien, on n'avait pas l'électricité. Ça devait être un peu flippant quand même. Hein. On entendait des bruits, on ne sait pas ce que c'était. Donc ce n'était pas le luxe. Et certainement, on se dirait, mais qui va venir nous porter secours? Qui? Mais ils ont compris que quand un obstacle se présente à son maximum, alors il faut présenter la grandeur du Seigneur, la valeur du Seigneur. Hein, ça, c'est un premier principe. Est-ce qu'on peut chanter au milieu de la nuit? C'est-à-dire quoi? La nuit va symboliser qu'il n'y a pas d'issue. La nuit va symboliser les difficultés. Ben, ce choix de louer Dieu, c'est quoi? C'est un acte de foi. Ça, c'est la foi. C'est la foi qui va au-delà des circonstances. La louange, leur louange, devient cette réponse à cette adversité. Et elle prouve, pour eux en tout cas, que leur confiance en Dieu ne dépend absolument pas des circonstances. Et je pense qu'on a tous, à des moments dans notre vie, on l'a vécu. On l'a vécu même s'il y a des moments où on ne se sent pas capable. Cette dimension de louange est intéressante à ce niveau-là, mais j'y reviendrai. Donc on continue l'histoire. Donc tous les prisonniers les entendaient, il est dit. Hein ? Je ne sais pas si c'est dit là. Tu peux descendre ? Non, avant ? Avant. Voilà, voilà, voilà. Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Donc là aussi, vous imaginez, il y a une atmosphère qui a été changée dans la prison. Il y a des gens qui chantent et tous les prisonniers les entendent. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'ils chantaient à haute voix. Ce n'était pas dans leur petit coin. Ils chantaient à haute voix et il est même dit qu'ils étaient debout. Donc debout. Malgré leur situation physique qui devait être pas évidente, ils se sont relevés. Et l'expression de cette foi par la louange, elle va être connue par tous ceux qui sont là. Voilà. Au début, j'imagine, certains devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils chantent? Qu'est-ce que ça veut dire, etc. Mais ça devait quand même les impressionner. Vraiment les impressionner. Hein. Donc, quand la puissance de la louange, quand elle se manifeste, elle va avoir des conséquences et des fruits. Hein. Il faut que l'expression de notre louange soit connue de tous. Et elle peut parfois souvent faire la différence. Hein. Cette louange va exposer la manière dont nous considérons notre Seigneur dans notre vie. Hein. C'est une manière un peu bravache. Là, ils se lèvent, ils chantent. Ils croient en Dieu, ils croient au Seigneur Jésus et ils veulent que ça se sache. Je crois que c'est à méditer. Hein. C'est une manière aussi de montrer que leur Dieu est capable et que ce n'est pas un incapable. C'est aussi un encouragement pour nous. Hein. Donc devant les situations même les plus difficiles, hein, au début j'avais écrit « nous devons exprimer », mais j'ai barré, j'ai mis « essayons ». Parce que nous devons, c'est stupide de dire à quelqu'un « tu dois ». Essayons, par la grâce de Dieu, d'exprimer de tout notre être cette louange. Ils le font à haute voix et ils élèvent le nom du Seigneur. Et chaque fois, la parole de Dieu le dit sans arrêt, chaque fois qu'on élève le nom du Seigneur, on change les circonstances. On change les circonstances déjà dans notre cœur. Et ça peut faire très souvent la différence. Et quand on fait cela, ben notre délivrance sera grande, comme celle de Paul et Silas. Hein ? Voilà. Je vais boire. Alors, au milieu de la nuit, Paul et Silas, ils chantent. Comme j'ai dit, ils louent. Je préfère dire ils louent. Si bien que les prisonniers comme je l'ai déjà dit aussi, ils entendent le nom de Jésus et le message de l'évangile. Donc Paul, hein, vous savez, il y a un passage où l'apôtre Paul il va dire de témoigner. Bonne situation, mauvaise situation, témoigne. Ben là, c'est un bon exemple de cela. Et là, le Seigneur, ben, il ne reste jamais passif. Bon, là, il va fort quand même, il permet un tremblement de terre. Bon, c'est pas mal. Donc, il y a un énorme tremblement de terre. Les murs de la prison, moi, je ne sais pas, j'ai vécu un tremblement de terre. Attention, un mini tremblement de terre. Hein. En Crète, ben, ça fait bizarre. Hein. Vous voyez, tout bouge, quoi. C'est bizarre. Donc, j'imagine là un tremblement qui a permis que des prisonniers s'en aillent, il devait être quand même fort. C'est très impressionnant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a peur, et là, Paul ne cherche pas à s'enfuir. C'est quand même incroyable, ça aussi. Il ne cherche pas à s'enfuir. Quelqu'un a écrit « Les exigences de la vérité l'avaient conduit en prison, la grâce le fait rester là. » C'est beau. Donc il va rester. Donc Paul, Silas, enfermé, accroché avec les bois, enfin, etc., etc., il se retrouve libre. Les portes sont ouvertes. Le geôlier est sur le point de se suicider. Hein, là aussi. Qu'est-ce que fait l'apôtre Paul? Il crie, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici. Hein, ne te fais pas de mal. Là aussi, c'est incroyable. Hein. Vous imaginez encore une fois la scène. Vous souffrez. Vous souffrez vraiment. Vous avez été battu. Mais le Seigneur vous relève intérieurement. On le voit. Qu'est-ce que vous faites? Vous levez et vous louez le Seigneur. Là, la terre tremble. Vous êtes libre. Qu'est-ce que vous feriez? À vue humaine, on part, non? Et puis en plus, ce ne serait pas gravissime, parce que l'apôtre Pierre, deux fois avant, il a été libéré, il est sorti de la prison, il est parti. Ce n'est pas un péché, hein, je veux dire. Mais il avait quelque chose à faire, et il le savait. Voilà. Donc, mais en même temps, ce qui est beau dans ce passage, c'est que l'histoire ne va pas se focaliser sur la libération de Paul et Silas, pour prouver comment Dieu intervient dans ceux qui croient en lui, pour dire que les disciples du Messie pouvaient compter sur lui. Ça va plus loin que ça. Hein. Il n'y a aucune, vous savez, pieuserie, je ne sais pas si c'est le terme, mais ceci est un signe de la main de Dieu, il ne laisse pas tomber les siens. C'est vrai tout ça. Mais il y a plus. Il y a plus dans cette histoire. Et c'est ça qui est intéressant. Non, c'est plutôt l'histoire du chant de la louange au milieu de la nuit, suivi d'un tremblement de terre qui donne le cadre de cette histoire, qui donne la raison de ce comportement qui semble à vue humaine étrange. Hein. Il ne s'évade pas alors qu'il est libre. Et c'est ça, être libre. On décide de partir ou de rester, en fin de compte. Lui, il décide de rester. Il va s'occuper d'un geôlier désespéré. Hein ? Je l'ai redit, mais à vue humaine, ça ne fonctionne pas. À vue spirituelle, ça marche. Ça marche. C'est ça la différence. L'apôtre Paul, il ne voit plus en cet homme une image de, je sais pas, de la tyrannie. Il ne voit plus... Non, il oublie même sa liberté et il se soucie de la vie de cet homme. Et il est dit de la vie de cet homme et de sa maison. Voilà. Il va témoigner à ce niveau-là. Donc cette histoire, comme je l'ai dit, c'est la troisième libération dans le livre des Actes. Paul va le sauver. Bon, ça c'est mignon, mais en ne s'étant pas sauvé. Voilà. Donc ça avait vraiment du sens de rester. Et quand tout s'écroule, là pour le coup c'est un tremblement de terre, hein, quand vous parlez à quelqu'un du Seigneur et que dans sa vie ça s'écroule, ben, c'est souvent là que le cœur est plus disponible à l'écoute, c'est souvent là que le cœur va être transformé par vos paroles, par le Seigneur, dans la vie de la personne. Et c'est ce qui va se passer. Hein, parce que selon la loi romaine, ce geôlier, ben, il allait y passer, quoi. Donc lui, il préfère, pour éviter la honte, on imagine pour sa famille, il va se donner la mort. Mais Paul le rassure, nous sommes tous ici, il lui dit. Nous sommes tous ici. Hein ? Là aussi, encore un autre miracle se produit. Et lui, ce geôlier, il se rend compte que ces deux hommes ne sont pas des êtres, entre guillemets. Il y a quelque chose. Et là, on pourrait se dire, mais est-ce que c'est ce geôlier, ce n'est pas le Macédonien de la vision? On peut se poser la question, pourquoi pas, hein? Viens à notre secours. Puis là, il y a un homme qui lui demande de venir à son secours. Bon, ça, c'est personnel, hein? Mais pourquoi pas. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire, cet homme? Il va les mener dehors. Dehors, on imagine, bah, parce que peut-être la prison menace de s'écrouler. Hein? Il va être tout tremblant, hein, c'est ce qui est dit, parce qu'il a pris pour des malfaiteurs des envoyés du ciel. Donc, il est impressionné. S'il est impressionné, il sait que le tremblement de terre a un lien avec ces deux personnes. Le tremblement de terre a un lien avec deux personnes qui louaient Dieu, malgré les circonstances. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va leur poser comme question? Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse aujourd'hui, à l'époque et aujourd'hui, ça reste la même. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un qui ne croit pas au Seigneur Jésus. Et bien, s'il se pose la question, mais comment je fais pour être sauvé? Ben, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ça semble simple. Tu verras que c'est pas simple, mais après. Mais au début, c'est très simple. Et le Seigneur, depuis 2000 ans, à cette prière, il répond toujours. Vous savez, des fois, quand on évangélise des personnes, on leur dit, quand on est à bout d'arguments ou quoi que ce soit, enfin, moi, en tout cas, ça m'arrive, je lui dis, bah, écoute, rentre chez toi, demande à Dieu de venir te parler, il va te parler. J'allais dire, et ça marche. Mais oui, ça marche. Dieu parle. Dieu parle. Et des fois, on a plein de discours, mais à un moment donné, c'est fatigant autant pour soi que pour la personne, parce que ça se passe entre lui et Dieu. Et donc, quand vous dites aux gens cela, ça fonctionne très souvent, très très souvent. Parce qu'ils se retrouvent, parce que ça a l'air de rien. Vous savez, quand Jésus dit « va dans ta chambre », etc., mais se retrouver seul face à face, face à soi, et dire « Seigneur Jésus, si tu existes, viens à mon secours », mais c'est super courageux, hein, et c'est super difficile. C'est super. Et quand vous rentrez là-dedans, Dieu agit, Dieu transforme. Voilà. Crois au Seigneur Jésus. Alors, il est vraisemblable, là aussi, toujours pareil, parce qu'il faut bien essayer de voir derrière l'histoire, qu'il avait entendu parler de Jésus. Parce que l'apôtre Paul, ça fait quelques semaines qu'il est là. Et tous les jours, il évangélise, tous les jours, il enseigne des gens, etc. Donc, ça commence à se savoir dans la ville. On le voit après dans l'épître aux Philippiens, hein, on dit que c'est l'épître de l'église, de la communauté. Donc, cette communauté, elle va grandir assez rapidement. Hein. Voilà. Donc, Paul, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont insister donc sur la seigneurie de Jésus. Et donc, c'est la parole de Dieu qu'ils vont annoncer à cette personne et à ceux de sa maison. Donc, là aussi, on imagine la scène. Ce geôlier les fait rentrer chez lui. Il y a sa femme, il y a ses enfants. Et l'apôtre Paul va les évangéliser de croire au Seigneur Jésus. Hein. Donc, cette parole est acceptée, c'est évident. Ils sont sauvés. On a trois preuves de cela. Premièrement, le geôlier et les siens sont identifiés avec Jésus-Christ dans sa mort, puisqu'ils se font baptiser. Entre parenthèses, là aussi, on ne va pas revenir chaque fois dessus, mais des fois, c'est marrant, parce que quand même, dans la parole de Dieu, on croit au Seigneur Jésus, on est baptisé. Voilà, c'est simple, c'est pas la peine de vouloir aller au Jourdain, ou de vouloir aller à la mer, ou, on s'en fout, quoi. Là, a priori, c'est un petit baptisphère, il y rentre même pas dedans. Peu importe. Il est sauvé, il est baptisé. Donc ça, c'est important. Mais vous remarquerez, il y a un verset, vous le lirez, qui dit qu'entre la foi et le baptême, il est dit que Paul et Silas les enseignent. Car il faut savoir ce qu'on croit. On a besoin aussi de comprendre ce qu'on croit. Hein ? L'intellect n'est pas mis de côté. Il l'accompagne. Hein ? Donc voilà. Ensuite, cet homme, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va s'occuper de Paul et Silas avec compassion, hein, en les soignant. Hein, il est dit qu'il soigne leurs plaies, en leur donnant à manger. Donc cet homme, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne pouvait pas les libérer. Il a une autorité au-dessus de lui, mais il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour les réconforter. Il a reçu la vie, il leur donne. Vous voyez, c'est sa première action en tant qu'enfant de Dieu. il va prendre soin de celui qui a souffert. Là aussi, ça peut nous parler. C'est beau, c'est toujours beau ça. Donc, lavé de ses péchés, il lave leurs plaies. Hein. Il ne craint plus les autorités en fin de compte. Et enfin, la troisième preuve de cette dimension qui a complètement changé, c'est quoi ? Il se réjouit avec toute sa famille qu'ils avaient cru en Dieu. C'est le milieu de la nuit, tout ça c'est la cata, on est au matin et ça finit par la joie. Hein ? Voilà. Le récit commence par la nuit. Le récit, à un moment donné, est perturbé par la louange qui va casser cette nuit. Et au matin, tout le monde se réjouit et la famille est sauvée. C'est une très belle histoire. Hein ? Et ben, ce matin, je voudrais vous encourager, voilà, et m'encourager aussi, à vivre la louange comme un mode de vie. Voilà. Vraiment comme un mode de vie. Et j'y crois fondamentalement. Hein. L'apôtre Paul, c'est peut-être suite à cette nuit, en Colossiens, il va dire un verset, il va dire, c'est à travers les cantiques, les hymnes et les chants spirituels que la parole du Seigneur vit en nous. C'est à travers les chants, les hymnes, les chants spirituels que la parole du Christ vit en nous. Donc ce n'est pas anecdotique la louange, ce n'est pas un truc à part, c'est pas... Non, non, c'est fondamental, c'est fondamental. La louange change l'atmosphère. C'est pas grave. Paul a raison donc. La louange se trouve au cœur de la vie chrétienne. Et comment on le découvre ? Exactement, merci Anne-Laure, en le découvrant, comment ? En le pratiquant. En le pratiquant. On a tous eu des matins, des après-midi, parfois des soirées, on n'est pas en forme, ou c'est dur, ou quoi que ce soit. Chantons de la louange, et vous changez la situation. Pas la situation, vous changez votre cœur, vous changez vos yeux face à la situation. Hein. C'est en louant qu'on ouvre les portes des prisons. Hein. En s'écoutant bien, en s'accordant chaque fois, parce qu'il y a aussi la dimension de la louange à vivre ensemble, comme ce matin on l'a vécu dans la communauté. Là aussi, il y a quelque chose de fort. On partage l'espérance. On a plus la pêche qu'un autre. On va l'encourager à louer. Et peut-être qu'on va l'aider à rebondir dans cette situation. Saint Augustin, il disait ceci. Celui qui loue, prie, doublement. Quand même. Et à ma connaissance, t'es loin d'être bête. Donc la louange a le pouvoir de libérer non seulement ceux qui louent, mais aussi ceux qui les entourent. Voilà. Donc quand on participe à la louange dans l'église, ou seul chez soi, on a ce pouvoir, sans s'en rendre compte, de libérer les autres aussi. Donc c'est à considérer sous cet angle-là. Hein. Quand on loue, on crée un espace pour que Dieu agisse. Dans notre cœur, dans le cœur des autres. On crée un espace. Voilà. Je sais que chacun l'a vécu. C'est bien de le rappeler. Hein. C'est qu'on pourrait presque dire que la louange, c'est idiot, mais dans notre perception humaine, attire la présence de Dieu. Et elle peut ouvrir des portes que rien ne pourra ouvrir dans notre vie. Voilà. Quand on est vraiment au fond du trou, la louange nous relève. La louange nous relève. Voilà, donc comme Paul et Silas, ben on est appelé à louer. Malgré nos circonstances. Là, on a un exemple. Alors, voilà, c'est une situation extrême. Ils sont vraiment au fond du trou, hein, pour le coup, c'est clair. Eh bien, ils louent Dieu. Alors, on ne peut pas dire que leurs circonstances étaient favorables. Et puis encore une fois, je reviens là-dessus, mais c'est important. Ils ne sont pas assis, ils ne sont pas couchés, ils se lèvent. Hein, ça fait très film, là. Hein. Ça fait glorieux, quoi. Enfin, je sais pas. Hein. Notre louange, c'est un acte de foi. Notre louange, c'est un témoignage de notre confiance en Dieu. Réellement. Hein. Donc dans ces moments de détresse, ben, levons nos voix, nos cœurs, louons-le pour qui il est, pour sa fidélité. On ne va pas le louer pour nos circonstances. On vit quelque chose de dur, de terrible. On ne va pas louer Dieu pour cela. Peut-être qu'on le louera, mais ce ne sera pas la preuve. Non, louons-le, c'est tout. Laissons agir Dieu. Il fera le reste. Hein. et on verra sa puissance agir, sa fidélité. Encourageons-nous chacun, là, en partant, à instaurer la louange comme une pratique quotidienne, à louer Dieu, à partager notre témoignage, les fruits de cette louange. La louange, ce n'est pas juste chanter. Hein. La louange, ça ouvre nos sens, ça ouvre notre cœur, ça rend plus léger nos fardeaux. Ça ne change pas forcément nos fardeaux, mais ça les rend plus légers. Hein. Parce que la louange, elle va nous décentrer de nous-mêmes. Je, puis à un moment donné, on s'arrête. Louange à toi, Seigneur. On change le paradigme. La situation n'est pas changée, mais notre cœur commence à changer. Hein. Donc voilà.
Je rebois, excusez-moi.
Et un peu pour finir, je voudrais citer des gens plus intelligents que moi, déjà il n'y a aucun doute, et plus inspirés, c'est sûr. Bon, enfin bref, des gens super que j'adore, et qui ont écrit ceci. Donc, le premier, c'est Bonnefère, évidemment. Écoutez bien ce qu'il dit, parce que c'est formidable. La louange est le moyen par lequel nous confessons notre dépendance à Dieu. Hein, Bonnefère, là, qu'est-ce qu'il souligne ? Que la louange, ce n'est pas un acte juste de célébration, vous savez. C'est super, on chante. Non, non, non. C'est une reconnaissance de notre besoin de Dieu. Et il dit aussi, la louange est un acte de foi, un acte d'humilité et de gratitude. C'est beau aussi. Vous voyez, c'est mieux que... C'est plus intelligent. La louange exprime notre confiance en Dieu, notre reconnaissance pour ce qu'il a fait. Luther va dire, la louange est la voix de l'âme qui chante l'amour de Dieu. La voix de l'âme qui chante l'amour de Dieu. Luther, lui, il croyait que parce qu'il a écrit là-dessus, que la louange, c'était essentiel pour nourrir notre relation avec Dieu. Pour nourrir notre relation avec Dieu et exprimer notre amour pour lui. Là aussi, ce n'est pas anecdotique. Il continue, il dit, « Quand je loue Dieu, je trouve la force pour surmonter mes épreuves. » Ça, c'est des phrases, il faut s'en emparer. Voilà. La louange fortifie et aide à traverser les moments difficiles. Et pour finir, Jean Chrysostome, donc Chrysostome, oui, en louant Dieu, et ça c'est le bouquet final, nous participons à la joie céleste. Donc ce n'est pas juste pour nous soulager, c'est pas juste, c'est ça, mais pas que ça. On participe à la joie céleste. Chrysostome, qu'est-ce qu'il nous rappelle là ? Que la louange nous place dans une communion spirituelle avec le royaume de Dieu. Une communion. Et c'est pour ça que nos fardeaux vont être allégés. Pas parce qu'on chante et que chanter c'est joyeux. Ça en fait partie évidemment, mais pas que. Mais c'est quoi ? Ah oui, c'est une gourde, ça va. Voilà. Donc toutes ces paroles, juste pour, c'était pour vous encourager, pour vous dire que voilà, la louange, ce n'est pas un accessoire. Voilà. Ce n'est pas quatre personnes qui jouent de la guitare, de la batterie, c'est pas ça, en communauté. La louange dans votre voiture, quand vous écoutez de la louange, je suis sûr que chacun vous l'avez vécu, elle transforme nos cœurs. Il y a des matins, on se lève, on met de la louange, ça change la situation. Ça change notre vie intérieure. Donc ce n'est pas juste un petit truc, c'est un fondement. Saint Augustin disait, je vous le rappelle, quand vous louez, vous priez doublement. Gardez que ça, ça m'ira. Voilà. Elle nous aide à vivre dans une attitude de dépendance, de gratitude. Voilà. Donc, qu'on soit inspiré à intégrer davantage la louange dans notre vie quotidienne. Puis, quand je loue avec l'Église de tous les temps. C'est ça, je suis en communion avec l'Église, hein, avec l'apôtre Paul. Je chante les louanges de Dieu. Je loue dans la joie et je loue dans la souffrance. Voilà. Et ça peut marcher. Ça marche, en fait. Hein. Et puis, quelqu'un a écrit ça, je trouve super. Je loue dans l'Église, dans la communauté. Bon, c'est une belle métaphore, je trouve. Je dois être attentif aux autres pour trouver le ton juste, pour pouvoir s'insérer dans un ensemble qui me dépasse. Quand on ne s'écoute pas lors d'un chant, ben, le résultat, on ne peut pas le cacher, c'est la cacophonie. Donc, vous voyez, même, il y a une dimension comme ça de communautaire qui est assez magnifique. Donc voilà, c'est la louange. Alors, pour finir, je vous dirai louons. Moi, je vais inviter la louange à revenir, justement, ça tombe bien. Et puis peut-être partager un chant ou deux. Voilà, se lever. Il y en a qui se disent, oh là là, mais moi je suis fatigué, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ou d'autres disent, je chante mal, ou on s'en fout. On loue Dieu. On loue pas les autres, on loue Dieu. Et peut-être que ça va, c'est comme un apprentissage en fait. Peut-être que voilà, je vous encourage, ce serait bien qu'on finisse dans un temps de louange ce message, que ce soit la continuité. Voilà.